Bonsoir à toutes et à tous. L'horreur et le choc à Conflans-Sainte-Honorine, un professeur d'histoire a été décapité par un terroriste d'origine tchétchène de 18 ans. Ce professeur d'histoire avait organisé un cours en classe de 4e sur la liberté d'expression et avait à cette occasion montré l'une des caricatures de Mahomet. Alors où en est l'enquête? Que sait-on du terroriste? Comment la communauté enseignante réagit-elle? Y a-t-il un risque d'autocensure dans nos écoles avec cet attentat? Est-ce l'éducation de nos enfants, le savoir qui sont visés? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « Le terrorisme frappe l'école ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Yves Tréhard. Vous êtes éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Le Figaro qui, bien sûr, titre ce matin sur cet attentat terroriste, un professeur décapité près de Paris. Anne Rosenchère, vous êtes directrice déléguée de la rédaction de l'Express. Éric Delbecq, expert en sécurité intérieure. Vous avez été le directeur de la sûreté de Charlie Hebdo après l'attentat de 2015 et vous avez publié « Les silencieux, ne nous trompons pas, les salafistes menacent la République ». C'est aux éditions Plomb. Et enfin, Driss Aït Youssef, vous êtes docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité, président de l'Institut Léonard de Vinci. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Yves Tréhard, on commence avec vous. Emmanuel Macron a très vite réagi. Il s'est très vite déplacé hier soir à Conflans-Sainte-Honorine, a immédiatement dénoncé, je le cite, un attentat islamiste caractérisé. Il faut dire qu'il n'y avait pas d'ambiguïté sur les intentions de l'auteur, puisqu'il a lui-même tweeté « J'ai exécuté un de tes chiens de l'enfer qui a osé rabaisser Muhammad ».
Oui, c'était assez naturel qu'il se déplace sur les lieux, tellement l'émotion, l'effroi, je ne sais pas quels sont les mots les plus adaptés, a emparé et s'est emparé de l'ensemble du pays. On lui avait reproché de ne pas s'être déplacé quand il y avait eu l'attaque perpétrée par un Pakistanais devant les locaux de Charlie Hebdo. On était un peu étonnés qu'il ne se soit pas manifesté, même par la parole. Sa parole a été très lente à être produite. Et là, donc, il y a deux choses. Un, il s'est déplacé, il ne pouvait pas faire autrement. Deux, dire que c'est un acte islamiste et déclaré comme tel, il pouvait difficilement faire autrement. Cela dit, Emmanuel Macron, contrairement à son prédécesseur, n'a jamais hésité à utiliser ce mot d'islamisme, d'acte islamiste. Son prédécesseur, François Hollande, a mis longtemps avant de... il parlait de terrorisme, mais le terrorisme, c'est vague, puisque le terrorisme, il a de multiples visages, de multiples facettes. Et il a mis beaucoup de temps, François Hollande, pendant son quinquennat, avant de parler d'islamisme. Chez Emmanuel Macron, il n'y a jamais eu cette ambiguïté-là. Et le discours qu'il a fait il n'y a pas très longtemps sur le séparatisme était clair, très très clair là-dessus, même si évidemment le propos dans un projet de loi va être rebaptisé comme un projet de loi sur la laïcité. C'est évidemment la première des préoccupations, c'est de lutter contre l'islam radical, et le président de la République l'a dit lui-même. Donc de ce point de vue, il n'y a aucune ambiguïté. Simplement, ce qui est, pour le moment, il n'y a absolument pas de débat en France depuis 24 heures, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir prendre des actes. Et c'est ce qui est demandé de la part d'une partie du personnel politique, mais aussi de l'ensemble de l'opinion publique, c'est qu'effectivement, il y ait des mesures qui soient prises, et c'est très compliqué. Très, très compliqué, j'imagine qu'on va en parler, parce qu'on est entre sécurité et liberté, on est un pays de droit, une démocratie. Et c'est très difficile de nous protéger à 100%. Il n'y a pas de risque zéro. Ça, c'est clair.
Éric Delbecq, alors je crois que c'est ce qu'on appelle une cible taboue, cet attentat terroriste, parce qu'en s'attaquant à l'école, on s'attaque aux enfants. Et les enfants, c'est en cela qu'on parle de cible taboue.
Oui, alors sauf que, on a la concrétisation atroce de l'idéologie islamiste. On a en plus un mode opératoire, la décapitation, qui est absolument affreux. Mais le fait que l'école...
Je crois que vous avez reconnu que vous avez vu l'image. Hein.
Oui, c'est tout à fait atroce. Et puis, si vous voulez, pratiquer ce genre de choses, ça révèle quelque chose sur la mentalité de l'auteur de l'acte qui dit aussi la sauvagerie. Hein.
Ça renvoie aussi à ce qui se pratiquait sur l'État islamique.
Oui, bien sûr, oui, il y a une parfaite continuité sur tout ça. Voilà. Enfin, une continuité d'inspiration, de méthode. On aura peut-être l'occasion de parler des catégories que nous avons qu'on répète beaucoup en ce moment sur les acteurs projetés, soutenus, inspirés, à laquelle moi je ne crois pas du tout. Et j'ai une vision un peu particulière du cas des revenants. Mais pour ce qui est de l'école, il est clair que c'est depuis longtemps une problématique. Le rapport Robin, dont on reparle beaucoup en ce moment, parce que son auteur en a fait un livre, enfin est allé jusqu'au bout de sa logique et a fait un livre sur le sujet, nous montre bien que ce n'est pas d'hier. Je rappelle aussi, parce que nos sociétés n'ont pas toujours beaucoup de mémoire, que l'islamisme dans notre pays a commencé de manière symbolique extrêmement forte avec l'affaire du foulard de Creil en 89. Donc on voit bien à quel point l'école potentialise ces enjeux. Quant à des menaces sur les professeurs, des cas d'élèves qui ont refusé des minutes de silence à partir d'ailleurs de l'attentat chez Charlie Hebdo, parents qui se mêlent des cours et estiment que telle ou telle chose est conforme à telle ou telle dimension religieuse, c'est absolument pas une nouveauté. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, pour moi...
Il y a tout ça qui ressort à l'occasion de cet attentat.
Oui, ça ressort et ça va peut-être, pour le coup, permettre de réagir à ces questions-là qui, jusqu'à présent, étaient quand même relativement mises sous le boisseau.
Et on va en parler.
Voilà, on en parlait finalement assez peu. Et ça va aussi clarifier bon nombre d'éléments, alors même si j'aime pas trop le mot de wording, en tout cas de la question, la manière dont on pose le débat. Et j'en conclurai par une chose qui m'a beaucoup frappé ce matin dans un certain nombre de réactions que j'ai entendues, y compris dans le monde syndical à l'intérieur de l'éducation nationale, qui est fortement ému, impacté, donc ça se comprend. Mais au-delà, quand même, il y a quelque chose dans les mots qui est très signifiant. On dit, on peut être d'accord ou pas d'accord avec certaines choses dans l'enseignement. C'est-à-dire, par exemple, sur la liberté d'expression, être d'accord ou pas d'accord avec le fait qu'on peut caricaturer le prophète. La question, pour moi, n'est pas là. C'est-à-dire, il n'y a pas à être d'accord ou pas d'accord avec la liberté d'expression. On peut, à titre personnel, avoir une conviction ou ne pas en avoir. C'est ce que protège la laïcité. Mais le fait que la liberté d'expression soit une chose à laquelle on ne peut pas toucher, ça ne se discute pas. Donc, non seulement il y a des problématiques sur lesquelles on va insister, mais peut-être ça va permettre d'aller clarifier et de rentrer plus avant dans des fondamentaux qui, on le sent bien, sont encore très touchés par le syndrome du « oui mais ».
D'accord.
Très dangereux, ça.
Qu'on entend parfois. Anne-Rose Encher, dans le mot terrorisme, il y a terreur, se met la terreur auprès des enfants, des parents et surtout des enseignants. On imagine que beaucoup, peut-être, vont, quand après les vacances, il va falloir retourner à l'école, vont avoir peur.
Ça va inaugurer, oui, en effet, l'ère de la trouille bleue dans les salles de classe. Je crois que pour comprendre ce qui s'est passé et l'étendue du mal que ça révèle, il faut dire deux, trois choses calmement. D'abord, que faisait cet enseignant ? Il faisait tous les jours, il accomplissait dans le sanctuaire de sa salle de classe le travail probablement le plus important en République, qui est d'enseigner, c'est-à-dire de montrer, d'élever, de dire à chaque enfant, à chaque adolescent, qu'il a le droit d'être différent de sa différence. C'est-à-dire que, quelle que soit son origine, les coutumes de ses origines, les convictions politiques, idéologiques de ses parents, les prescriptions de sa religion, il partage avec ses concitoyens, c'est vraiment ça de devenir un citoyen, c'est de comprendre qu'on partage avec ses concitoyens un corpus de normes qui découlent de valeurs qu'on s'est fixées en commun au fil des siècles et qui prévalent sur tout ce qu'on a dit avant, les particularités personnelles. Et pour avoir enseigné ça, parce que c'est vraiment ce qu'il a enseigné dans son cours d'histoire-géographie et de liberté d'expression, Samuel Paty a été décapité. C'est à la fois une punition pour avoir voulu exercer et faire comprendre ce droit et faire apprendre ce droit, mais c'est comme vous le dites, et surtout, je pense, même peut-être, un exercice d'intimidation envers les autres professeurs, tous les professeurs de France, tous les enseignants, de leur dire « voilà ce qui vous arrive si vous prétendez aller jusqu'au bout de votre liberté d'enseigner et jusqu'au bout de tout ça, ne montrez pas les caricatures du prophète Mahomet ou voilà ce que vous encourez ». Et ça, c'est une intimidation, c'est le principe du terrorisme, c'est l'intimidation qui a prévalu avec les attentats de Charlie Hebdo sur la liberté d'expression et désormais donc sur la liberté d'enseigner.
Dans la presse, à l'école.
Et je vais vous dire quelque chose, Axel, ça marche, ça fonctionne. C'est-à-dire que ne nous trompons pas, l'émotion nationale qui suit, c'est peut-être réconfortant, c'est peut-être consolant, mais l'intimidation, elle progresse. Parce que non seulement il y a bien sûr les terroristes, il y a les complices de ces terroristes, c'est-à-dire ceux qui, sans passer à l'acte, défendent au quotidien cette hiérarchie, cette inversion de la hiérarchie des normes. Et donc là, il y a quand même 9 personnes qui sont, je crois, en garde à vue. On a, je veux dire, ce qu'on découvre autour de cette affaire, les professeurs qui se délirisent, les parents d'élèves qui font circuler le nom et le téléphone et l'adresse, le membre du conseil des imams qui fait une vidéo pour présenter ce professeur à la vindicte, ça ce sont des complices directs. Il y a les complices indirects, il y a le pas de vague de l'administration qui est absolument incroyable. Là nous verrons ce qui s'est passé, on ne sait pas s'il est trop tôt pour le dire, j'ai lu le livre de Bernard Ravet qui a été proviseur pendant très longtemps dans les collèges des quartiers nord de Marseille. Il dit qu'en 20 ans où il a été confronté comme ça à la montée de la revendication islamiste dans l'école, à chaque fois l'administration lui a répondu par pas de vague, vous vous taisez, et ne l'a pas soutenu, si vous voulez. Donc ça aussi, ça rend possible la montée de la menace et de l'intimidation. Et enfin, dernier mot, pour ceux qu'on entend peut-être pas beaucoup, mais qui pensent comme ça, ils sont choqués, ils sont sincèrement choqués, mais ils disent oui, mais finalement, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux ne pas les montrer, ces caricatures? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux abdiquer de cette liberté-là, ou en tout cas de son exercice, parce que finalement, ce serait plus sûr? On vivrait dans un pays plus sûr, plus pacifié, etc., si on ne le faisait pas. Alors, ceux-là, je sais qu'ils sont nombreux, ils ne s'expriment pas forcément, parce qu'ils voient bien que ce n'est quand même pas super bien vu, hein, le lendemain d'une décapitation comme ça, mais je voudrais juste leur dire qu'ils se trompent, mais vraiment, ils se trompent. C'est-à-dire que non seulement... D'abord, c'est abdiquer d'une liberté fondamentale. Et bon, peut-être qu'on pourrait vivre sans, mais on peut aussi vivre avec un seul poumon. Simplement, il ne faut juste pas attraper un rhume derrière. C'est-à-dire qu'on abdique de quelque chose de fondamental et de vital. Mais en plus, c'est contre... Enfin, c'est suicidaire à terme. C'est-à-dire que si vous ne montrez pas les caricatures, demain, ce sera pour autre chose. Ce sera parce que le voile est interdit à l'école. Ce sera parce que vous allez écouter de la musique et faire la fête et boire de l'alcool à des terrasses de café. Donc, c'est lâcheté-là, ce comportement... de pacifiste qui est peut-être mu parfois par une bonne intention de vouloir protéger les gens, c'est un mauvais calcul. Et j'ai déjà cité ici Julien Freud, mais je le répète parce que c'est la grande erreur des pacifistes. Ils croient toujours que ce sont nous-mêmes qui désignons l'ennemi, mais c'est l'ennemi qui nous désigne. Et vraiment, c'est quelque chose d'important parce que c'est le « oui mais » dont parlait Éric Delbecq tout à l'heure et auquel il ne faut pas céder.
Driss Saïd Youssef, Emmanuel Macron a dit « on a voulu abattre les lumières ». Derrière ce qui se joue, c'est tout simplement les lumières contre l'obscurantisme ?
Je pense que c'est plus que ça. D'abord, l'objectif de l'enseignement, c'est à parler, à écrire, à compter et à se respecter. Et de ce point de vue, l'éducation civique, c'était le cours de ce professeur sauvagement assassiné, c'était la liberté d'expression. Et dans notre pays, la liberté d'expression, c'est l'un des fondements de notre démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans liberté d'expression. Donc ce qui est en train de se jouer, c'est ça. Ce n'est pas autre chose. Après, il y a un glissement qui est opéré au sein des établissements scolaires depuis maintenant des décennies. Le premier, c'était la contestation finalement du savoir. On n'était pas d'accord avec ce cours parce qu'on considérait qu'il était peut-être un peu trop orienté. Et puis ensuite, on a eu... des violences exercées contre les enseignants. On se souvient de cette enseignante qui a été giflée parce qu'elle voulait confisquer un revolver factice d'un étudiant. Et hier, c'était un assassinat absolument atroce. Il est là, l'enjeu. Alors, l'enjeu, c'est deux enjeux. C'est la distinction et l'acceptation. La distinction parce que le professeur, il doit faire cours à tout le monde. Il ne doit pas sélectionner. Ce n'est pas l'enjeu, parce que l'éducation, c'est un service public de l'enseignement.
Il ne doit pas sélectionner. Qu'est-ce que vous faites allusion au fait qu'il a demandé...
Qu'un professeur soit obligé, à un moment donné...
De demander si les élèves musulmans qui lèvent la main et s'ils souhaitent sortir, ils le peuvent.
Ils le peuvent.
C'est ce qu'il a dit avant de montrer les caricatures.
Absolument.
De Mahomet.
Dans le respect, effectivement, de ces gamins, de ces croyances, c'est quand même un acte courageux de sa part, fort. Mais on ne doit pas d'arriver à faire une distinction dans l'enseignement aujourd'hui dans notre pays. Il y a déjà quelque chose qui ne marche pas bien. Donc évidemment
qu'on en vienne à que les élèves musulmans lèvent la main. Voilà.
Et donc dans la même veine, c'est l'acceptation finalement. Parce que si on n'accepte plus la transmission de la connaissance, si on n'accepte plus le cours, finalement, à quoi sert l'éducation ? Et donc de remettre une responsabilité qui est, à mon sens, une responsabilité peut-être trop importante sur l'épaule de nos enseignants qui souffrent au quotidien des violences, à un moment donné, d'un certain nombre de transgressions, et ben c'est peut-être dommageable parce qu'il y a aussi les questions des parents. Quand on regarde à un moment donné ce qui s'est un petit peu passé, on voit bien qu'il y a une mobilisation qui est montée très vite et de manière très violente par un parent qui, au motif, refusait que... Là, on a un vrai sujet. Donc, c'est de considérer que l'éducation, l'école, c'est pas l'éducation, mais c'est l'enseignement. Et l'éducation, c'est aussi à la maison, et surtout à la maison. Et donc, quand on passe à côté de ça, on en arrive à des dérives qui sont inacceptables. Donc, les enjeux, ils sont là, et ce ne sont pas de petits enjeux.
Et ce père, qui a contesté ce cours et qui a même appelé sur Twitter à l'exclusion de ce professeur, est ce soir en garde à vue, suite donc à la décapitation d'hier. La France a donc une nouvelle fois été frappé de plein fouet par le terrorisme islamiste. Il était disserteur hier soir lorsqu'un professeur d'histoire a été sauvagement attaqué à quelques mètres de son collège, décapité en pleine rue pour avoir défendu la laïcité. Le rappel des faits avec Juliette Perrault et Aurélie Saner.
L'horreur et l'effroi au lendemain de l'attaque terroriste contre Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie dans ce collège.
On a mal pour la famille. On a mal pour les enseignants, on a mal pour les élèves. C'est dur.
Le drame s'est déroulé hier dans ce quartier tranquille de la commune de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Il est 17h lorsque des policiers de la brigade anticriminalité sont informés de la présence d'un homme suspect dans le secteur. Une fois sur place, ils découvrent le corps de l'enseignant décapité. L'assaillant armé d'un couteau est interpellé dans la commune voisine, puis abattu par les policiers. Le parquet antiterroriste est immédiatement saisi. Très vite, Emmanuel Macron et plusieurs membres du gouvernement se rendent sur place.
Un de nos concitoyens a été assassiné aujourd'hui parce qu'il enseignait, parce qu'il apprenait à des élèves la liberté d'expression, la liberté de croire et de ne pas croire. Notre compatriote a été lâchement attaqué, a été la victime d'un attentat terroriste, islamiste, caractérisé. Ils ne passeront pas. L'obscurantisme et la violence qui l'accompagnent ne gagneront pas.
L'homme à l'origine de l'attaque est un jeune russe tchétchène de 18 ans, inconnu des services de renseignement, domicilié à Évreux.
La première exploitation de son téléphone, saisie à proximité de son corps, a permis de retrouver dans le bloc-notes le texte de la revendication, enregistré à 12h17, ainsi que la photographie de la victime décédée, horodatée à 16h57.
Début octobre, Samuel Paty avait montré à sa classe de 4e des caricatures de Mahomet dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Il aurait alors proposé aux élèves de confession musulmane de ne pas regarder, un épisode qui avait suscité l'émoi de plusieurs parents, notamment sur les réseaux sociaux. Ce père de famille avait fait part de son indignation dans une vidéo devenue virale.
C'est un voyou d'histoire qui est censé leur apprendre l'histoire et la géographie.
Il est aujourd'hui en garde à vue comme 8 autres personnes, dont des membres de l'entourage de l'assaillant. Une attaque unanimement condamné par la classe politique.
Nous avons appris avec effroi l'abominable attentat qui s'est produit cet après-midi.
Hier, à l'Assemblée nationale, tous les députés présents se sont levés dans l'hémicycle pour rendre hommage à l'enseignant. À gauche comme à droite, les réactions se multiplient.
Nous en sommes en France à ce niveau de barbarie insoutenable. L'islamisme nous mène une guerre. C'est par la force que nous devons le chasser de notre pays.
Il faut faire vraiment la guerre contre le poison de l'islam radical. Il faut lui faire la guerre vraiment pour l'éradiquer enfin.
Ici, c'est la France, le pays des Lumières. On ne coupe pas la tête, on n'égorge pas, on ne tue pas au nom de la religion. Et ceux qui le font doivent être punis, capturés et punis.
La communauté enseignante, elle, est bouleversée. Ce matin, plusieurs syndicats ont été reçus au ministère de l'Éducation.
Le choc, l'émotion, la sidération sont toujours là. Une forme de colère aussi, parce qu'on se dit forcément qu'est-ce qu'on a raté. On va continuer. Mais pour que l'école continue et que les enseignants aient confiance et cette combativité, ils ont besoin du soutien de toute la nation et de l'unité de la nation derrière son école.
Jean-Michel Blanquer promet des réponses concrètes pour aider les enseignants dans leur mission. Un hommage national sera prochainement rendu à Samuel Paty, mort pour avoir enseigné la liberté d'expression.
Mort pour avoir enseigné la liberté d'expression. On entendait Yves Tréhard dans le sujet, Jean-Luc Mélenchon dire c'est Voltaire qu'on assassine. Il y a des savoirs maintenant qui sont compliqués de transmettre dans les écoles, des cours qu'il est compliqué de tenir.
Ah oui, il est très compliqué de tenir certains cours. Vous avez un rapport qui est remis tous les ans, et le rapport est tombé d'ailleurs il y a quelques jours, sur tous les coups de canif à la laïcité qui sont apportés dans les enceintes des établissements scolaires. C'est à peu près 1000 parents qui sont recensés et qui sont déclarés, parce que comme l'a très justement dit Anne tout à l'heure, c'est qu'il y a une omerta, et le pas de vague dans l'administration de l'éducation nationale, qu'on ne sait jamais tout ce qui s'y fait. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il est impossible dans certains établissements d'enseigner le conflit israélo-palestinien. C'est absolument impossible. Vous avez certains cours, notamment des cours de biologie, qu'on ne peut pas tenir parce que ça heurterait la conscience de certains.
Et pourquoi ? Parce que la biologie, qu'est-ce que ça véhicule,
si on a,
la biologie ?
Parce que vous abordez le corps, vous abordez certaines fonctions corporelles, et ça, c'est absolument impossible. Il y a des cours, et on le sait, de sport qui ne peuvent pas être pratiqués normalement parce que les jeunes filles veulent pas, ou les garçons ne veulent pas être avec la jeune fille. La mixité ne peut pas être respectée.
Alors c'est les fameux certificats d'allergie au chlore dont a parlé le chef de l'État.
Exactement, c'est pareil évidemment pour les cours ou les enseignements de natation. Enfin, vous avez énormément de contestations à l'intérieur des établissements scolaires qui fait que, et là je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que c'est l'autorité de l'éducation nationale qui est remise en cause. Vous vous rendez compte que l'un des piliers de notre République, c'est quand même l'enseignement, l'éducation nationale qui est au centre, au cœur de la formation de notre pays, au cœur de la formation des jeunes filles et des jeunes garçons qui demain seront l'avenir du pays, qui est contestée aujourd'hui, ouais, au nom justement d'une inversion de la norme, au nom d'une inversion des lois. Donc c'est très très grave. Et j'oubliais aussi que certains auteurs en littérature, eh bien, sont complètement bannis dans certains établissements ou dans certaines classes. Et le problème, c'est que vous avez des enseignants qui se retrouvent seuls face justement à l'hostilité des élèves, qui ne sont pas soutenus par, oui, c'est le fameux oui mais, qui ne sont pas soutenus par leurs collègues de l'éducation nationale ni par leur hiérarchie. Donc là, il y a un travail à faire à l'intérieur de l'éducation nationale qui est tout à fait exemplaire. Et comme on l'a dit tout à l'heure, quand on pense que l'affaire du voile, qui a commencé en 1989 à Creil, M. Jospin était ministre de l'Éducation nationale cette année-là, on l'a résolu 15 ans plus tard. On a mis 15 ans pour venir à bout de cette histoire en 2004, après une commission qui était la fameuse commission Stern. Et quand on a légiféré après ça, beaucoup qui étaient hostiles à cette loi se sont dit « Oh là là, on ne va jamais pouvoir la faire respecter, ça va être, ça va créer du pugilat. » Moralité, la fermeté a payé, puisque je ne crois pas, sauf exception, que justement le port du voile ne puisse être remis en question, en tous les cas en ce moment.
Driss Aït Youssef, le risque, est-ce qu'il n'est pas, comme le disait Anne Rosenchair, c'est l'autocensure. C'est que finalement, bon bah, on va un peu renoncer, hein, parce qu'après tout, être prof, c'est pas super bien payé, c'est très difficile, et en plus, maintenant, on se rend compte qu'on risque sa vie, donc à quoi bon ? Est-ce qu'on peut pas faire un peu plus court ou un peu plus... ou passer certains passages, quoi.
Oui, c'est toujours effectivement le danger de l'autocensure, mais qui est juste la conséquence, à un moment donné, au-delà du renoncement, qui est un renoncement, c'est vrai, réel, mais pas de l'enseignant, quelquefois de l'administration. Et on sait bien que dans certains établissements, on ne peut pas virer les gamins, parce qu'un gamin, effectivement, qui ne respecte pas la discipline dans un établissement, on ne peut pas le virer, parce que si on le vire, il est sur la voie publique. Donc c'est aussi la conception de l'éducation nationale, qui est de dire, il faut éviter d'exclure les gamins, parce que c'est pire ensuite. Donc à défaut, les parents ne rentrent pas à l'école. Les parents devraient s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants, devraient être vigilants, devraient suivre la scolarité, devraient accompagner la scolarité. Or, vous avez des enseignants qui n'ont jamais vu les parents et qui ne voient pas les parents. Vous avez des gamins qui, à la sortie de l'établissement, ne rentrent pas chez eux, vont traîner. Pourquoi aujourd'hui il y a une contestation de l'enseignement, comme le disait Yves il y a quelques instants? Parce que vous avez Facebook, parce que sur le conflit israélo-palestinien, on préfère aller voir quelque chose qui est complètement alambiqué, qui est complètement truqué, qui est complètement obscurantiste, qui est complotiste, et puis on va dire, mais non, votre théorie, elle n'est pas bonne du tout. Moi, ce que je sais, c'est ça, et ce n'est pas autre chose. Donc, et puis ensuite, après, ça fait un peu effet boule de neige par rapport aux camarades. Donc vraiment, la difficulté, elle est, c'est vrai, pour un certain nombre d'enseignants, c'est pas de renoncer, mais de l'aborder différemment. Ça veut dire, bah pour les musulmans, je voudrais pas vous choquer, mais vous retournez-vous, vous sortez. Et ça donne quelquefois ça. Et toute la difficulté, encore une fois, c'est de dire qu'il faut faire cours à tout le monde et les gamins prennent ce qu'ils ont envie de prendre sur un cours de liberté d'expression.
Encore c'est une fois, ça. C'est la précaution qu'avait prise, mais absolument. À tort, selon vous, ce professeur d'histoire de 4e qui souhaitait ne pas...
Évidemment, je voudrais... Ce n'est pas du tout une critique, mais c'est de dire qu'effectivement, il a voulu respecter, mais c'est vrai que dans
c'était
le monde dans lequel on vit...
C'était déjà un renoncement, selon vous.
Non, voilà. Bah,
c'était peut-être déjà sous l'effet de la frayeur, d'ailleurs.
Bien sûr. Quand Bruno Retailleau dit que le professeur décapité faisait l'objet de menaces depuis plusieurs jours, et il interpelle justement Jean Castex sur le pas de vague... Il y a un problème, au fond, d'autorité qui n'est pas assez affirmée en haut dans la hiérarchie.
Le pas de vague, il débute avec le fameux rapport Aubin, parce qu'on en parle tous aujourd'hui comme
Aubin,
si...
Le rapport Aubin, parlez-en,
alors,
2004.
Voilà, c'était un inspecteur général qui a fait un rapport il y a 15 ans.
Gentiment pour,
voilà, et qui avait
et qui
fait un
rapport
sur...
que certains professeurs faisaient des cours avec, pour ne pas avoir d'ennui, avec un Coran. Sur la
oui, alors il y avait eu plein de rapports. Il avait fait remonter, en fait, c'était vraiment une enquête remarquable. Il avait fait remonter du terrain tout un tas de témoignages sur justement les volontés d'entrisme de l'islamisme au sein de l'école républicaine. Et ce rapport a été enterré par un gouvernement de droite. Donc là, pour le coup, on va dire que chacun, Bruno Retailleau, peut crier, et je le pense
d'ailleurs,
sincère, peut-être.
Il a taclé certains de ses collègues de droite en disant qu'ils sont plus proches de Manuel Valls ce matin que de certains de ses collègues de droite.
Donc le pas de vague, et je dirais que c'est le pas de vague originel, l'enterrement du rapport Aubin, qui démontrait déjà cet entrisme vraiment très préoccupant. Et depuis, il y a eu beaucoup de témoignages. Je citais tout à l'heure Bernard Ravet, qui a donc été proviseur dans des collèges du côté de Marseille, et qui raconte tout ce que vous dites, c'est-à-dire la difficulté grandissante d'enseigner les cours de biologie, pour les raisons qu'a dit Yves tout à l'heure, mais aussi parce qu'il y a le darwinisme, et donc l'idée que le monde n'a pas été créé par Dieu, mais qu'éventuellement c'est le résultat de l'évolution. La Shoah, lui-même explique, c'est très difficile d'enseigner la Shoah, mais même au-delà, c'est Bernard Ravet, l'un des premiers, qui a dit de voir et qui a admis avec un déchirement de cœur, parce que c'est un hussard de la République, avoir dû refuser l'inscription d'un élève juif dans son établissement au motif qu'il n'aurait pas pu assurer sa sécurité. Donc si vous voulez des indicateurs de l'entrée de l'islamisme et des prétentions de l'islamisme dans les collèges, on en a. Simplement, on a du mal à voir, en effet, la réaction à la hauteur de l'État. Emmanuel Macron, je l'ai déjà dit ici la dernière fois, avait annoncé, il y a désormais un an et demi, un audit de tous les collèges et de tous les établissements où il était impossible, justement, d'inscrire un enfant juif en ne craignant pas pour sa sécurité. Nous attendons, tout le monde, les citoyens, attendent toujours le résultat de cet audit qui, à mon avis, n'a pas été lancé. Voilà.
Alors, une fois encore, les caricatures de Charlie Hebdo se retrouvent donc au cœur du drame. Et une fois encore, c'est bien la liberté d'expression qui est visée. Le journal satirique a dénoncé ce matin un acte immonde, alors même que se poursuit le procès des attentats de 2015 et que les anciens locaux de la rédaction avaient été la cible d'une attaque il y a 3 semaines. Le récit de Émilien David.
Des dessins et un journal encore au centre d'un attentat terroriste. Charlie Hebdo et ses caricatures de Mahomet, symbole de la liberté d'expression, mais aussi de la folie islamiste. Après l'attaque perpétrée hier, le journal a fait part de son sentiment d'horreur.
L'intolérance vient de franchir un nouveau seuil et ne semble reculer devant rien pour imposer la terreur à notre pays.
Cinq ans après l'attentat contre Charlie Hebdo, les victimes se sentent une nouvelle fois attaquées.
C'est l'information qui est touchée. Le journaliste et l'enseignant font la même chose, ils informent. Et c'est ce qui vient en opposition. De l'autre côté, c'est l'obscurantisme. Voilà, la lumière contre l'obscurité.
Il faut dire les mots sur la violence et le radicalisme religieux et l'islamofascisme. Il faut dire les choses. Il faut dire que cette gangrène qui va pourrir le pays ne peut pas continuer et qu'on doit vraiment se mobiliser.
Se mobiliser contre une menace qui s'est encore présentée le 25 septembre dernier. Devant les anciens locaux du journal satirique, un homme armé d'un hachoir s'attaque à deux employés de l'agence de presse Première Ligne. Les victimes étaient en pause cigarette, elles sont grièvement blessées. L'homme est rapidement arrêté. Le Premier ministre se rend immédiatement sur place.
J'ai d'abord voulu témoigner ma solidarité envers les familles des victimes et également tous les collègues de travail.
Lors de sa garde à vue, l'auteur de l'attaque reconnaît que c'est bien Charlie Hebdo qui était visé.
Son projet initial était d'entrer dans les locaux du journal, éventuellement, si nécessaire, à l'aide du marteau, puis de les incendier grâce aux bouteilles de White Spirit. En arrivant devant la rue 6 Nicolas Appert, et en apercevant les victimes, il a pensé que ces dernières travaillaient pour le journal satirique et a finalement choisi de les attaquer.
L'assaillant s'est dit révolté par les caricatures republiées par le journal quelques semaines plus tôt, à l'occasion de l'ouverture du procès des attentats du 15 janvier. Un procès toujours en cours, qui s'est ouvert le 1er septembre. À la barre, Riss, le directeur de la publication, a tenu à assumer ses desseins et à les brandir comme une arme contre l'obscurantisme.
Ce que je regrette, c'est de voir à quel point les gens sont si peu combatifs pour défendre la liberté.
Ils se battent et ils continuent à se battre malgré les menaces, malgré le fait qu'ils n'ont plus de vie, qu'ils ne peuvent plus se balader avec leurs femmes dans la rue, qu'ils vivent en résidence surveillée, qu'ils ont été obligés d'abandonner leur vie personnelle, qu'ils vivent dans un bunker, et ils continuent à se battre. On ne se couchera pas, on ne renoncera pas, on continuera paisiblement ce combat pour la liberté avec le rire, qui est notre arme pacifique.
Un combat par le rire, mais aussi par l'éducation, espèrent certains avocats de la partie civile. Ce procès doit être l'occasion, selon eux, de faire de la pédagogie.
Ce procès est plus qu'utile, il est nécessaire. C'est un procès historique. J'espère que ce procès sera ouvert. Vous savez, c'est un procès public. C'est filmé, mais on ne pourra pas visionner avant 50 ans. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que des élèves accompagnés de leurs professeurs puissent venir. Il y a des salles à disposition pour s'imbiber de cette ambiance.
Le procès se tiendra jusqu'au 10 novembre. De longues semaines durant lesquelles les victimes espèrent enfin obtenir des réponses.
Alors, question téléspectateur, pourquoi la France est-elle à ce point la cible des terroristes, Éric Delbecq? Je crois que c'est le cinquième attentat pour l'année 2020 en France.
Parce qu'on cumule. On cumule tout ce qui fait que nous sommes des cibles de choix. Et déjà, à commencer justement par le modèle de la laïcité. C'est-à-dire que beaucoup d'autres pays sont moins que nous à cheval sur ce principe, notamment ceux dans le monde anglo-saxon, qui consentent plus facilement au modèle communautariste, avec les errements et les dégâts qu'on peut voir après. Hein. Les Anglais se sont crus pendant des années à l'abri avec leur londonistan, on a vu ce qui était arrivé. Donc déjà, rien que notre modèle fortement laïque pose une question, ou en tout cas excite la haine des islamistes. Ensuite, la France est engagée, effectivement, dans un certain nombre d'opérations extérieures pour se battre contre le djihadisme. De manière générale, notre rapport aux religieux est extrêmement, précis et articulé sur la distinction entre une spiritualité et la religion entendue comme modèle politique. C'est bien de ça qu'il est question chez les islamistes, c'est de faire en sorte que le religieux, en tout cas sous prétexte religieux, permette d'instaurer un régime totalitaire. Il y a également de la part de certains une forme de, faut en parler de manière assez simple, de ressentiment décolonial qui se mêle également à la problématique islamiste. Selon une alchimie un peu complexe dont on pourra rentrer dans le détail. Rien que, si vous voulez, l'ensemble de ces motifs, ça fait déjà beaucoup.
Ouais. Alors justement, là, en l'occurrence, c'était un Tchétchène de 18 ans qui n'était pas fiché S. Ça rend très compliqué, on imagine, le travail des enquêteurs pour essayer de détecter les attentats.
On en revient toujours à notre grand mythe des fichiers S, là. C'est-à-dire que ça devient parfois l'alpha et l'oméga de la réflexion, voire de l'absence de réflexion. C'est-à-dire entre ceux qui pensent que la fichier S, c'est une condamnation et que donc il faudrait interner tous les fichiers S qui n'a pas de sens dans un état de droit, et ceux au contraire qui disent on en fait trop et on voit trop d'éléments probants avec la fichier S et ce n'est pas une clé à explication de tout. La vérité est sans doute un peu au milieu, mais ce qui est clair aujourd'hui, si vous voulez, c'est que la fichier S, ça ne va pas nous aider longtemps. Dans une problématique qui est la suivante, la subsidiarisation, la décentralisation absolue de l'acte terroriste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a baigné dans un environnement islamisé, salafiste, idéologiquement toxique, peut, alors non pas du jour au lendemain, mais au bout d'un parcours qui va vers le basculement, devenir un assassin sauvage.
Mais là, en l'occurrence, il est d'origine tchétchène. Est-ce qu'on peut parler de terrorisme importé ou bien non, cette haine, il l'a cultivée en France et il est...
Ah mais oui, c'est-à-dire... Moi, justement...
Ça ne sert à rien de dire qu'il est d'origine tchétchène.
Enfin, ça peut, parce que notamment, on voit bien le type de modèles qui peuvent, dans sa perspective, être utiles pour comprendre sa psychologie. Mais ce que je remets en cause, moi, parce qu'en fait, tout ça est extrêmement poreux, c'est nos distinctions traditionnelles, j'en parlais tout à l'heure. On a classiquement l'habitude de séparer des terroristes projetés d'un théâtre d'opérations extérieures, en l'occurrence la Syrie, des acteurs soutenus, c'est-à-dire en France et qui seraient sous l'influence d'un commanditaire, et des acteurs inspirés simplement par ce qui se passe à l'international. Et puis après, vous auriez le terrorisme low cost, c'est-à-dire des types qui, sur notre territoire national, parfois citoyens français, passent à l'acte. En fait, tout cela est beaucoup plus subtil et nébuleux. Il faut raisonner par grappe, par réseau, par connaissance, par sociabilité, y compris dans ces fameux territoires perdus de la République. Et tout cela, à la fois, se recoupe, communique, et il n'y a, dans toute cette masse de gens dangereux, que des parcours qu'il faut arriver à repérer et lier ces parcours entre eux. Typiquement, sur le cas dont on parle, sans doute parce qu'il est d'origine tchétchène, il y a une forme d'héroïsation atroce du djihadiste tchétchène. Il y a ensuite cultivé, peut-être dans son environnement, via la famille ou d'autres modèles, une islamisation de plus en plus haute en pression. Et un jour, avec un motif, une circonstance particulière, là, en l'occurrence, un professeur qui fait son travail, bah, le type va basculer et passer à l'acte. Mmh. Et pourquoi c'est difficile pour les services? Parce que les services de sécurité et de renseignement, on ne le répétera jamais assez, ne sont pas là à l'origine pour reconstituer des parcours biographiques sur une masse de gens qui, très clairement, échappent à la capacité numérique des services. Je rappelle qu'une personne, quand on veut prendre en compte, quand on dit prendre en compte dans les services, une personne, c'est-à-dire le surveiller quasiment 24 heures sur 24, il faut à minima entre 15 et 30 agents maximum pour surveiller une personne. Ça veut dire que si on voulait surveiller, ce qui n'est pas souhaitable, 20 000 fichiers S, vous multipliez 20 000 par en moyenne 20 agents des forces de sécurité. Ça veut dire vivre dans un état policier, ce qui n'est pas souhaitable. Donc on voit bien qu'il y a un combat de société à mener qui excède très largement les forces de sécurité intérieure.
Combat de société à mener et séparatisme dont parle Emmanuel Macron. Et alors, puisqu'on parle des Tchétchènes, on l'a vu à l'œuvre cet été, Anne Rosenchair à Dijon. La communauté tchétchène et la communauté maghrébine se sont affrontées, hein, et où a été réglé, où l'armistice a été signé, non pas dans un tribunal ou dans un poste de police, mais
dans une mosquée.
Dans une mosquée, ce qui avait choqué Emmanuel Valls en disant « On est où, là ? On est où ? On tope la paix dans une mosquée ?»
Je crois que ça n'avait pas choqué que lui, fort heureusement.
Oui, mais je me souviens que ça l'avait pas mal choqué.
Oui, non, mais c'est ce dont on parle depuis le début, c'est cette question c'est cette question de normes et d'appartenance à la société des citoyens, c'est-à-dire des gens sans étiquette d'origine religieuse, politique ou autre. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles la France est particulièrement visée, si je pouvais en ajouter une à celle déjà évoquée par Idelbeck, c'est que notamment ce conflit de normes traverse l'islam et qu'en France, il y a cet enjeu, je pense, qu'il y a particulièrement, plus que dans d'autres pays, des citoyens musulmans sécularisés. Et que c'est un vrai enjeu pour les islamistes que de les intimider eux aussi. Parce que, bien sûr, cette bataille de normes, ils voudraient la gagner. Et donc, ils voudraient, par l'intimidation aussi, faire prévaloir les prescriptions politiques de l'islam sur les normes et les règles et les lois de la République. Et ça, je pense que il faut le comprendre, ça. C'est que nous sommes un enjeu, peut-être notamment parce que notre modèle a en partie marché. Et c'est vrai que, ma foi, c'est quand même quelque chose à comprendre et à intégrer. Moi, je suis toujours mal à l'aise quand on dit qu'il faut absolument que les musulmans prennent la parole, parce que je comprends bien sûr que ça puisse choquer certains de dire, mais attendez, justement, on est en République, on n'a pas à être renvoyé à notre culture, à notre religion, et ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est exactement ce que disait Driss tout à l'heure, il disait il n'y a pas à faire de distinction entre les élèves, les citoyens, etc. Donc bien entendu, on ne va pas commencer à aller interpeller chaque Français musulman pour dire « Et vous, qu'est-ce que vous pensez ? Montrez patte blanche, ce serait absolument abject. » Mais en revanche, comprendre que c'est quand même au sein de l'islam une guerre de valeurs et de normes, et qu'en effet, il faut des braves, il faut des courageux, il faut une volonté et des volontaires pour gagner cette bataille des normes, c'est quand même comprendre une bonne partie de la question.
Voilà, et c'est l'imam de la mosquée de Bordeaux hein, qui nous devons rester unis et ne pas céder à la division, et c'est tout cet enjeu aussi de ce qu'on appelle l'islam du 21e siècle, je crois. Yves Tréhard, quand Valérie Pécresse appelle à un sursaut, finalement, il aura fallu cet attentat pour qu'on se rende compte de ce dont on vient de parler, qu'il y a certains cours qui ne peuvent plus être tenus dans les écoles.
Écoutez, ça fait bien longtemps que ce sursaut, il aurait dû avoir lieu. Et le personnel politique, pour une partie de lui, en tous les cas, est responsable, et aussi a quelques responsabilités. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a deux choses. Il y a les actes terroristes, ouais, violents, qui à chaque fois donnent lieu, pardon de ce mot, mais à un concert de discours, de lamentations, de condamnations, c'est toujours les mêmes. Et ça remonte, je dirais, à très longtemps. Hein, faut pas faire remonter ça à 2015. N'oubliez pas Mohamed Merah en 2012. N'oubliez pas les Twin Towers en 2001. Ça fait longtemps que cette guerre qui nous est déclarée par les islamistes est là. C'est une idéologie qu'ils veulent implanter dans notre pays. Ça me permet de faire la transition avec ce que je veux dire. À côté de cet islam violent, cet islamisme violent, vous avez un islamisme rampant. Un islamisme rampant qui essaye d'infuser dans tous les replis de notre société, à l'école, dans l'entreprise, dans les services publics, partout, sur la voie publique, et qui veut imposer sa loi, qui veut imposer la loi islamique. Et ça, il y a une responsabilité collective, parce qu'on a parlé de l'éducation nationale, pas de vague. Dans les entreprises, on n'ose pas, parce qu'on va se faire taxer de raciste, parce qu'on va se faire taxer d'hostile, d'intolérant, d'hostile à la diversité. Mais là, c'est là où il faut qu'il y ait un sursaut. C'est parce que quand on voit une manifestation comme celle qui a eu lieu au mois de novembre l'année dernière pour défendre le voile sur la voie publique, et que vous avez énormément d'hommes et de femmes politiques qui sont allés à cette manifestation, qui était une manifestation militante d'un activisme politique affiché, où en plus on se permet des amalgames, c'est-à-dire qu'on met l'étoile juive, comme si les musulmans d'aujourd'hui avaient le régime que les juifs ont subi pendant la guerre il y a 70 ans. Mais on est dans un monde où il faut remettre les choses à leur place. Et là, il y a une responsabilité des hommes et des femmes politiques qui ont souvent manqué de courage. Donc sur le plan de la sécurité, je dirais qu'on a accumulé, Eric peut en parler mieux que moi, Idriss sans doute aussi, des lois justement pour nous protéger. On est à la mode israélienne, c'est-à-dire qu'on ajuste au fur et à mesure. Et il ne faut pas dire à chaque fois, bah, on accumule les lois et il y a toujours plus d'attentats. Non, parce qu'entre-temps, on a démantelé des commandos, on a réussi à arrêter des gens.
32 attentats démantelés depuis 2017.
Mais là où il faudrait 61. Se muscler considérablement, c'est sur le respect des valeurs de la République, d'où la nécessité de cette loi. Ce projet de loi qui a été appelé sur le séparatisme et qui sera présenté en décembre. Sur la laïcité.
Voilà. Alors, tout à l'heure, nous parlions des filières tchétchènes, mais que reste-t-il de l'État islamique? Si l'organisation a perdu la quasi-totalité de son territoire en zone irako-syrienne, ses combattants, eux, restent actifs et déterminés. Des milliers de djihadistes, certains toujours dans la nature, d'autres détenus sur place, mais aussi dans les prisons françaises. Sujet de Pierre-Millet Bellandeau et Walid Berissoul.
C'était il y a quelques semaines, non loin de Mossoul. Les forces irakiennes tentent alors de déloger des djihadistes du groupe État islamique. Retranchés dans ces îles sur le Tigre, cachés par la végétation, mais surtout aidés et soutenus par une partie de la population locale, d'après cette brigade gouvernementale.
Ici, il y a des gens qui apportent des provisions, du matériel et de la nourriture à ces terroristes et aux membres de Daesh. Parce que les villages tout autour sont très proches.
Dans son ancien califat autoproclamé, le groupe État islamique reste actif, organisé et dangereux. Alors que les États-Unis accélèrent le retrait de leurs troupes de la zone irako-syrienne, hors de question pour la France de se désengager d'une région où se joue une partie de sa sécurité.
Il y a toujours aujourd'hui des djihadistes, des combattants sur le terrain. Il y a toujours cette menace pour le peuple irakien, pour toute la région et pour nous-mêmes.
Parmi eux, combien y a-t-il de djihadistes français évaporés dans la nature? Combien se sont évadés ou ont été simplement relâchés, comme ce fut le cas il y a quelques jours, des camps gardés par les Kurdes au nord de la Syrie? Au camp d'Alol, 68 000 personnes, parmi eux des détenus membres de l'État islamique, et leurs familles. C'est de ce camp, surpeuplé, qu'a ressurgi un nom et un visage qui hante les services de renseignement français, Ayad Boumediene. La veuve d'Amédi Koulibaly, le tueur de l'hypercachère, avait réussi à quitter clandestinement la France pour rejoindre la Syrie. Elle s'est de nouveau volatilisée.
Il y a quelques mois, nous avons entendu une femme qui est revenue de la zone, vous le savez, dans une procédure distincte, puisqu'il y a encore des procédures annexes qui se poursuivent, et qui nous avait parlé de Ayad Boumediene en vie. Donc il y a quelques mois, elle était encore en vie. Aujourd'hui, l'est-elle encore? Je l'ignore totalement. Elle se trouve dans un pays qui est en zone de guerre, vous le savez, dans une zone de guerre particulièrement difficile, et les choses prennent du temps.
Pour les djihadistes revenus sur le sol français et incarcérés, le temps des enquêtes laisse la place à celui des procès. Depuis un an, 24 djihadistes ont été jugés devant la cour d'assises spéciale, notamment Tyler Villus, considéré comme un cadre du groupe État islamique, condamné en juillet à 30 ans de réclusion criminelle. Mais le défi le plus urgent concerne ceux qui vont sortir. 45 personnes condamnées pour des faits de terrorisme ont déjà été libérées l'an dernier. Une soixantaine devrait l'être cette année, sous la très haute surveillance des services antiterroristes.
Il n'y a pas de sortie sèche de détention. Il y aura toujours des suivis en renseignement qui seront mis en place, qui peuvent prendre des formes diverses et variées. Je suis obligé d'être discret sur les formes de ces surveillances, mais il faut vraiment que les Français se rassurent, et je m'en assure en tant que coordonnateur national. Nous assurons un suivi de l'ensemble des personnes qui sortent de détention qui ont été condamnées pour terrorisme.
Mais en dehors des murs des prisons françaises, se pose un autre enjeu qui relève d'une menace plus diffuse. La surveillance des personnes radicalisées. Plus de 8000 Français sont actuellement fichés S, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.
Alors, question téléspectateur. Le terrorisme islamiste tchétchène présente-t-il des particularités, puisqu'en l'occurrence, le jeune homme de 18 ans, vendredi hier soir, était d'origine tchétchène. C'était un réfugié tchétchène.
Alors, il y a deux choses. D'abord, Il n'y a rien qui permet de relier une communauté, en tout cas cet attentat, parce que si on prend par exemple le début de cette affaire avec effectivement ce cours d'éducation civique de liberté d'expression, le parent d'élève, il n'est pas tchétchène. Celui qui accompagnait le parent d'élève n'est pas non plus tchétchène. On a plutôt tendance à voir dans le périmètre direct du parent d'élève des individus qui sont connus des services de renseignement et pour la demi-sœur qui a un mandat d'arrêt parce qu'elle s'est rendue en Syrie. Ensuite, effectivement, sur la communauté tchétchène, c'est une communauté qui est extrêmement fermée. Il n'y a pas de prédisposition à devenir terroriste, mais c'est une communauté qui est extrêmement fermée, une communauté qui est hiérarchisée, une communauté qui est difficile à pénétrer. Pourquoi ? Parce que tout le monde se connaît. Vous prenez la Tchétchénie, vous prenez Grozny et ce qu'il en reste autour. Et puis après, vous avez des familles, les familles se connaissent. Donc la difficulté, c'est de la pénétrer. Donc par conséquent, voilà, il y a eu un attentat en mai 2018 commis sur Paris par un Tchétchène. Mais voilà, rien ne permet de dire qu'il y a une filière terroriste tchétchène en France. Mais... il y a des organisations, il y a des sujets de droit commun. C'est vrai, on vous avait rappelé tout à l'heure Dijon, des sujets, mais qui aussi, à un moment donné, touchent aussi d'autres communautés qui se replient et qui décident, à un moment donné, vous prenez des Albanais, vous prenez des Pakistanais, vous prenez des individus maghrébins, d'origine maghrébine. Donc voilà, mais il n'y a rien qui relie cette communauté
à... – Mais la Tchétchénie a été l'objet de mouvements de radicalisation islamiste dans les années 90, c'est ça ?–
Encore aujourd'hui, vous prenez le président autoproclamé, le dictateur Kadyrov, il est musulman, un peu extrémiste, vous prenez effectivement un certain nombre d'individus se sont retrouvés soit en Afghanistan, des Tchétchènes en Afghanistan, d'autres se sont retrouvés en Syrie, d'autres en Irak, donc vous avez effectivement une filière pour le coup qui part de la Tchétchénie, voilà, lui il est arrivé en France, il est réfugié, il est arrivé, on ne sait pas dans quel état il est arrivé, est-ce qu'il s'est radicalisé là-bas où il était, enfin déjà radicalisé ou radicalisé ici, on verra ce que dira l'enquête, mais ce qu'on voit c'est qu'il y a eu une montée extrêmement vite entre le moment où il y a eu cette polémique entre guillemets et la commission de cet acte absolument abominable.
D'ailleurs Éric Delbecq, c'est vrai, l'enquête a priori de ce qu'on sait, il n'était pas ce Tchétchène, il n'était pas, enfin cette personne d'origine tchétchène n'était pas liée à l'établissement. Il s'est emparé du sujet. Alors on peut penser justement, il a vu la fameuse vidéo qu'avait mis en ligne le père d'une des jeunes filles de ce professeur qui avait classe dans le cours du professeur. Et à tel point d'ailleurs qu'il a demandé, en arrivant devant le collège, il a demandé qui était le professeur de quatrième.
Oui, on a assez dit qu'il habitait une centaine de kilomètres et qu'il s'est rendu sur les lieux pour commettre l'acte. Donc effectivement, il s'est saisi visiblement d'une opportunité pour aller au bout d'un projet qui nourrissait.
Sur les réseaux sociaux.
Oui.
Dans les médias, là.
Oui, en tout cas, on en fait la supposition.
Avec un degré de préparation aussi.
Mais bien sûr, oui, parce que, le message est quand même un peu travaillé. Deux, il semblerait qu'il ait fait également un message sur un réseau chinois. Bon, c'est encore à confirmer sur les conditions dans lesquelles il a pu réaliser ça. Le nom du professeur est cité. Enfin, il y a un certain degré de sophistication. L'image atroce qui est mise également à l'intérieur du message témoigne de la volonté de sidération, de jouer le jeu du spectacle médiatique, etc. Donc,
il avait fait des repérages, hein, c'est ce qui vous fait dire d'ailleurs qu'il avait préparé en amont son coup.
Il y a certainement effectivement un degré de préparation. C'est pour ça que ce qui intrigue, et ça fait partie quand on écoute les procureurs auprès du parquet national antiterroriste, les investigations, c'est effectivement à la fois le mode opératoire, les complicités et comment cet individu qui n'habite pas la région, qui n'est pas scolarisé dans cet établissement, âgé de 18 ans, comment il se retrouve dans son téléphone portable, avoir la photo de l'enseignant. Bon, il avait le texte de la revendication, mais comment il a obtenu ça dans un laps de temps, c'est vrai, il faut bien l'admettre. Ça s'est monté à peu près en une semaine. Donc, il y a eu une mise en relation rapide avec qui. Donc, tout ça est encore à confirmer par cette information.
La question qui est intéressante également, et ça revient au problème de l'entrisme dont Yves parlait tout à l'heure, c'est dans le réseau de complicité, est-ce qu'on va, je ne sais pas, c'est complètement ouvert aujourd'hui, est-ce qu'on va retrouver certains parents d'élèves contestataires ? Est-ce qu'on va se rendre compte, en fait, que l'assassin a été en relation avec certaines personnes qui se sont coalisées autour de tel ou tel parent d'élève. Et c'est là où on prend, c'est ce qui est effrayant dans cet acte, on prend conscience, on a une totale lisibilité du fait que notre problème, quand je dis notre problème collectif français dans la question du traitement du terrorisme islamiste, réside en fait dans cette espèce de maillage sociétal, idéologique, de contestation de la République au quotidien, qui finit fatalement par donner naissance à des terroristes. Je prends un exemple qui est très frappant, et on l'oublie aussitôt que ça s'est passé. Ibrahim Mounir, le guide suprême des frères musulmans, qui a fait une déclaration assez virulente contre le projet de loi, on ne sait plus sur le séparatisme et la laïcité d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'on pense ? Que ça n'incite pas des gens qui sont à deux doigts de la violence à passer à l'acte ? Il y a une forme de caution idéologique, de superstructure idéologique, auraient dit les marxistes, qui en fait favorise le basculement et qui a été conçu comme tel. Je rappelle également que les grandes références doctrinales des djihadistes sont des frères musulmans. Hein, on a oublié que doctrinalement, les djihadistes se sont construits sur les frères musulmans. Donc au bout d'un moment, il faut cesser le sketch et bien comprendre que la contestation de la laïcité du modèle républicain au quotidien, voilà l'ennemi, comme disait l'autre. D'accord. Moi, c'est pour ça que j'ai écrit
Les
silencieux.
Mais on pourrait couper les réseaux de ces grands maîtres influenceurs.
La question n'est pas de couper le réseau. C'est que de la même manière qu'eux nous font une guerre d'usure au quotidien, nous devons faire une guerre d'usure aux salafistes au quotidien. On doit les épuiser. On doit leur montrer ce qu'il en coûte de s'attaquer à la République.
Ils sont souvent installés à l'étranger. Donc,
Pas forcément. C'est-à-dire, il y a l'inspiration doctrinale qui vient de l'étranger ou l'inspiration du théâtre d'opération comme en Syrie. Et puis, vous avez des gus bien planqués chez nous, des doctrinaires salafistes qui, au quotidien, vous remontent des groupes entiers. Prenons l'exemple, le célèbre exemple de Ben Yetou, qui a radicalisé les frères Kouachi et quelques autres.
L'imam des buts de Chaumont.
C'est quand même la base du travail doctrinal qui va vers le basculement. Et quand après les gars vous expliquent qu'ils sont repentis, je pense qu'il faut prendre ça avec de sérieuses pincettes.
Juste, peut-être, il y a aussi un enjeu qui est pour moi un enjeu extrêmement fondamental, en tout cas majeur, c'est celui de la distinction entre les 2% d'individus prétendant être des musulmans, qui en réalité sont des islamistes extrêmement dangereux pour le vivre ensemble, et puis les 98% de musulmans qui considèrent la France comme étant leur pays, qui respectent les valeurs de la République et qui servent le drapeau, et qui pour un certain nombre d'entre eux, je pense en tout cas à nos ancêtres qui ont combattu aux côtés des forces françaises pour libérer notre pays. Et ces prédicateurs qui font de la politique ne cherchent qu'une seule chose, c'est à ramener vers eux les 98%. Et quand ils disent que cette loi sur le séparatisme, ça, c'est radicaliser ceux qui sont déjà radicalisés, il n'y a pas besoin. En revanche, expliquer que ce pays est un pays absolument raciste et qui déteste les musulmans et que c'est la guerre aux musulmans, alors que ce n'est pas la guerre aux musulmans. Et de ce point de vue, je trouve que le ministre de l'Intérieur sait faire quelquefois la distinction et il devrait peut-être appuyer un petit peu plus en disant qu'effectivement, il y a les musulmans qui prospèrent d'une certaine manière, en tout cas qui contribuent à un moment donné au rayonnement de notre pays, et puis il y a ceux contre qui on fait la guerre, et il faut leur faire la guerre, y compris les musulmans. Musulmans, quand je dis normal, c'est un pléonasme. Et donc il faut aller, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Et ces prédicateurs, c'est ceux-là qui font du mal. Et il faut faire cette distinction, parce que sinon, il va y avoir, non pas un basculement, mais beaucoup de musulmans vont se sentir stigmatisés. Ouais. Et l'enjeu, il est là aussi.
Et vous avez l'impression que c'est le cas ?
Ah bah,
mais que ça l'est toujours autant, plutôt plus ou plutôt moins qu'avant ?
Il a dit très justement, Eric, quand vous avez par exemple un prédicateur frère musulman, c'est de la politique. Le salafisme, c'est pas de la politique. Les frères musulmans, eux, pour un certain nombre d'entre eux, font de la politique et ils infiltrent d'une certaine manière partie de notre société pour infuser leur modèle, les créneaux dans les piscines, etc. Et donc, face à ça, il faut qu'il y ait une réponse qui est une réponse républicaine très forte, mais tout en distinguant ceux qui commettent, ceux qui vont contre les valeurs qui sont les nôtres, et puis ceux qui, au quotidien, travaillent dans des services publics, qui respectent, qui payent leurs impôts et qui sont très attachés aux valeurs qui sont les nôtres.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Yves Tréhard, que peut-on faire contre le terrorisme ? On voit là d'ailleurs qu'il y a 60 revenants qui ont purgé leur peine, qui vont sortir de prison. Alors on peut peut-être que certains ont réfléchi sur leur sort, mais on peut se dire, d'ailleurs on disait dans le reportage qu'ils allaient être suivis.
Oui, alors ça c'est un gros sujet, c'est le sujet effectivement de ceux qui sortent de prison. Il y a les revenants qui reviennent des théâtres d'opération, de Syrie, il ne faut pas oublier le Sahel. Et puis, vous avez ceux qui ont été impliqués dans des attentats en France. Je rappelle au passage quand même qu'il y a eu quelques 270 morts en France de terrorisme depuis 2015, pour le coup. Là. Et ceux-là, eh bien, ce ne sont pas ceux qui étaient en première ligne. C'était parfois ils avaient fourni des armes ou un téléphone portable. Ils ont purgé leur peine. Ils ont été condamnés. Ils ont été condamnés à des peines allant de quelques années de prison, certains d'ailleurs n'ont pas fait de prison du tout, à 10 ans de prison. Et plusieurs d'entre eux sortent actuellement. Il y en a eu 60 l'année dernière, il y en a, je crois, une soixantaine encore cette année. Il y en a régulièrement. Et le problème qui se pose, c'est comment on suit ces individus. Terroriste un jour, terroriste toujours, point d'interrogation. Et il y a eu une loi qui a été adoptée en France sur justement une loi de sûreté pour assurer le suivi de ces individus considérés qui peuvent être considérés comme dangereux, de suivi, c'est-à-dire quand ils sortent de prison, on leur met un bracelet électronique, ou alors ils sont obligés d'aller pointer au commissariat régulièrement, ou il y avait diverses méthodes pour essayer de savoir ce qu'ils faisaient. Et cette loi s'est heurtée au Conseil constitutionnel qui a déclaré inconstitutionnel cette loi.
Parce que quand on a purgé sa peine, on a acquitté sa dette.
Le problème en France, et c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est que il y a le problème de se protéger. La sécurité, c'est l'éternel problème, un dilemme philosophique énorme, et de
liberté.
Garantir les libertés. Ouais. Un pays comme Israël, par exemple, change sans arrêt sa législation. Sans arrêt, parce qu'eux, ils sont vraiment exposés. Ils changent sans arrêt la législation pour s'adapter justement à cette menace terroriste. Nous, on change aussi notre législation. Il ne faut pas croire qu'on reste les bras croisés. Je parle contre la violence, là. On est sans arrêt, je crois qu'il y a eu une dizaine de lois depuis 7-8 ans, il y a une dizaine de lois qui ont été adoptées. On va toujours plus loin. Mais à chaque fois, il y a des dispositions qui sont impossibles à mener, des dispositions qui sont impossibles à rendre applicables et à adopter, parce qu'elles se heurtent à notre bloc de constitutionnalité, à notre bloc aussi des grandes lois, celles de 1881.
Mais vous semblez le regretter, Israël.
1901. Oui, alors, non, mais par exemple, on parle de cette loi sur le séparatisme, là, ce projet de loi sur le séparatisme. Il va se heurter, c'est évident, à la loi de 1901 et à la liberté d'association et à la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État. Ce sont des lois sacrées dans notre pays qui sont simples et qui, évidemment, ont été imaginées à une époque où il n'y avait pas ce terrorisme religieux et islamiste. Et donc, ça va être un débat terrible, terrible. Je peux déjà vous l'annoncer, qui ne va pas résoudre, qui va nous empêcher de résoudre certaines choses.
Et on en reparlera. Pourquoi l'ensemble de la presse ne publie-t-elle pas le même jour ces caricatures, Anne Rosenchère, ces caricatures qui ont valu à cet homme d'être décapité? C'est sûr que vous parliez tout à l'heure de l'intimidation. Elle est partout, cette intimidation, jusque dans les rédactions?
Bien sûr, elle est très présente dans les rédactions. C'est une question qui va se poser, vraiment, honnêtement, je pense, mais rédaction par rédaction. Il y a quand même la liberté de la presse, donc chaque rédaction et chaque directeur de la rédaction
est libre de ne pas les publier.
Voilà. L'Express l'avait fait à l'époque, quand il y avait eu toute la polémique autour des caricatures danoises. On oublie parfois de le préciser, Charlie Hebdo avait bien sûr publié, bon, c'est désormais de notoriété et de triste notoriété vu les conséquences que ça a eu, mais l'Express l'avait fait.
Et il y avait de l'anxiété ?
Il y avait, écoutez, à l'époque, c'était Denis Jambard, le directeur de la rédaction, et il avait eu un appel de Serge Dassault, qui était alors propriétaire du journal, et qui lui avait dit, il est hors de question que vous publiez ces caricatures, car j'ai des contrats en Arabie Saoudite bientôt.
Alors lui, c'était pas par peur, c'était pour du business.
Mais il faut tout regarder, hein, et ça, Serge Trévidic le dit extrêmement bien. On peut pas continuer d'expliquer qu'on fait la guerre aux terroristes en France tout en dealant avec l'Arabie Saoudite de l'autre côté. C'est quand même la matrice un petit peu. Et donc Denis Jarouard avait tenu bon, avait dit à Serge Dassault, écoutez, si vous voulez arrêter, vous prenez sur vous la responsabilité d'arrêter les rotatives. Et moi, bien sûr, vous aurez ma lettre de démission dès le lendemain sur votre bureau. Serge Dassault était quand même quelqu'un d'intelligent. Il a compris que ça serait quand même un mauvais buzz. Il a laissé l'Express paraître et il a vendu l'Express, me semble-t-il, dans les deux mois qui ont suivi. C'était trop d'emmerdement. Voilà. Donc, non.
Et,
mais...
et c'est un motif de fierté que d'avoir publié ces caricatures, d'avoir
tenu bon.
Je ne sais pas si ça s'est vendu, d'ailleurs, si ce numéro s'est vendu. Mais...
Le numéro, c'était pas en couverture, hein. C'était en éditorial, etc. Et non, ce qui s'est passé surtout, c'est que Denis Jambard est venu raconter cet épisode lors du procès de Charlie Hebdo sur les caricatures. Et il s'est dit, je vais quand même faire un coup de tonnerre, là, les gens vont quand quand même prendre conscience qu'il y a quand même des influences qui limitent la liberté d'expression en France, et ça n'a été repris absolument nulle part.
Donc depuis, vous trouvez que ça a reculé depuis 2015, alors depuis qu'on a...
Écoutez, la trouille a avancé, donc quelque part ça a reculé. Néanmoins, et on l'avait déjà évoqué ici, le scandale est moindre, c'est-à-dire que les gens, quand Charlie Hebdo a republié les caricatures à sa une il y a quelques semaines, ça a fait beaucoup moins de scandales que ça ne l'avait fait à l'époque.
Alors, comme d'habitude, il y va y avoir de belles paroles, des marches, des bougies et des fleurs, et après, il se passe quoi? C'est Sylvie qui dit ça en Loire-Atlantique.
Ah là, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut impérativement, et là, je ne pense pas que le pouvoir exécutif reste les bras croisés. Bon, d'abord, il y a ce projet de loi, là, qui n'est pas contre le terrorisme, attention, qui est contre, mais tout ça est lié quand même, qui est contre, enfin, qui est pour la défense de la laïcité en France, le droit d'expression, le droit de penser ce qu'on veut. Mais il va falloir sans doute encore, eh bien, améliorer. Mais c'est fait, ça, je veux dire, dans la coulisse. Hein. Il ne faut pas, Eric pourrait en parler.
Il faut dynamiser.
Les services de renseignement travaillent d'arrache-pied. Il faut faire attention. Hein. Ils ne sont pas là à attendre que ça se passe.
Il y a un échelon qu'il faut dynamiser, parce qu'il existe. C'est l'échelon préfectoral. Au niveau des préfectures départements, il y a des instances, et notamment deux où on met autour de la table un ensemble de services publics et pas simplement un service de sécurité, qui s'appelle le CEPRAF et le CLIA. Une est dédiée vraiment à la lutte contre les lieux salafisés et l'autre à l'accompagnement des familles, dans lesquelles siège notamment l'éducation nationale. Et maintenant, il va falloir que l'éducation nationale mette un gros élan dans sa participation à ce genre de cellules et arrête de considérer que travailler sur les questions liées à l'islamisme, y compris à l'intérieur de l'école, c'est de la délation.
Sait-on si ce terroriste avait des complices ?
Ça, c'est plutôt à l'enquête de le déterminer. Ce qui est certain, c'est que le procureur a tout de suite aussi ouvert la qualification d'association de malfaiteurs terroristes, ce qui laisse en tout cas supposer qu'il y avait probablement des complicités, puisque ensuite il y a eu un tweet qui a été immédiatement, juste après cet attentat horrible, tweeté. Et donc c'est l'enquête qui va le déterminer assez rapidement.
Alors forcément, il y en a toujours.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Merci. Lundi, vous retrouverez Caroline Roux. Bonne soirée sur France 5. À suivre, c'est l'Hebdo.